Lyon demain, ville, mer et océan.
C'est une expédition quelque peu particulière qui va avoir lieu ce samedi au Grand Large. Le Grand Large, c'est le réservoir du Rhône, situé en amont de Lyon, à Mézieux, et partie intégrante de l'usine hydroélectrique de Cusset. Un endroit où il fait bon se promener, voire même voguer sur l'eau. Mais le fond du fleuve réserve parfois bien des surprises. On en parle dans quelques instants avec notre invité.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
Bonjour Lionel Rare.
Bonjour Gérald Bouchon.
Plongeur et président d'Odysseus 3.1. D'abord, rappelez-nous ce que c'est votre association qu'on a découvert il y a déjà quelques mois, voire même déjà peut-être quelques années, à travers ces opérations de repêchage de trottinettes et d'exploration du lac de la Tête d'Or, c'est ça? Mais rappelez-nous un petit peu l'esprit de l'association.
Oui, effectivement, ça va faire bientôt 3 ans que nous existons. Nous sommes une organisation de protection de la nature avec 3 moyens pour atteindre cet objectif: l'exploration, la recherche scientifique et la transmission aux générations futures par le volet éducatif.
Et ce week-end, vous nous proposez une opération spéciale, une opération qui s'annonce captivante. C'est tout près de chez nous, hein. cette fois-ci c'est pas au lac du parc de la Tête d'Or, mais c'est dans un espace également que les Lyonnais connaissent bien, un espace aquatique, et cet espace aquatique, il s'agit du Grand Large à mes yeux.
Exactement, en plein dans la métropole lyonnaise, un bassin bien connu de 160 hectares. Et effectivement, on a essayé de mettre plusieurs ingrédients dans cette opération. On a mis de l'histoire, on a mis de la recherche et un peu d'exploration et beaucoup d'écologie. Une mission un petit peu triple. On a tout d'abord effectué des plongées de repérage pour nous apercevoir que le bassin contenait malheureusement une quantité très très importante de pneus. On en a repéré entre 100-150 pneus et on ne sait pas exactement combien on va en trouver samedi. Donc on a pris la décision de les retirer, et puis en retirant cette pollution toxique due à des métaux lourds issus notamment d'hydrocarbures, on retire également malheureusement de l'habitat pour la faune aquatique. Alors, on va immerger des habitats artificiels. On a des scientifiques qui se sont penchés avec nous sur le sujet pour immerger des habitats et faire une phase test pour voir un petit peu quelle va être la réaction de la faune. Et puis, enfin, un troisième volet qui nous passionne également, un brin d'histoire. Le 30 avril 1944, un escadron de l'aviation alliée a bombardé des hydravions qui étaient sur le bassin du Grand Large, des hydravions allemands et français qui ont été bombardés. Alors, il y a forcément des traces, des stigmates de cette opération, et on va envoyer une équipe de plongeurs avec des détecteurs de métaux subaquatiques, des soufflants pour dévaser en espérant retrouver des traces de ce bombardement, tout simplement.
Pour revenir à ces pneus, hein, c'est des pneus qu'on jetait, enfin que certaines personnes jetaient il y a encore quelques années quand on savait pas quoi en faire, quand la filière de recyclage peut-être n'existait pas. Ces pneus, ils présentent un danger même plusieurs années plus tard?
Oui, complètement, puisqu'ils continuent à se désagréger. Et puis au fil des années, eh bien, la matière est de plus en plus cassante, poreuse, friable. Il y a 2 sources possibles de ces pneus. Peut-être des expériences, comme c'était la mode dans les années 80, de vouloir immerger des pneus en justement se disant que ça allait apporter un abri pour les poissons. Ça a été tenté dans le sud, du côté d'Antibes, des récifs de 25 000 pneus que l'on retire maintenant, mais sans aucun succès. Et puis la source aussi la plus probable, on va dire un civisme classique, la manière de se débarrasser de pneus en les jetant dans l'eau.
Qu'est-ce qui va se passer concrètement samedi? Vous êtes une vingtaine, une trentaine, je crois, de bénévoles. Vous allez commencer par quoi?
Oui, alors samedi, nous avons 22 plongeurs que nous avons répartis par groupe pour respecter les conditions qu'on nous impose. On va commencer par l'opération nettoyage et exploration, et on terminera par la partie immersion des habitats, puisqu'il faudra attendre que la vase retombe, hein, on va dire ce qu'on appelle la touille communément en langage de plongeur, que la touille retombe pour qu'on puisse installer correctement l'habitat.
Les récifs artificiels que vous mettez en place, ça se présente comment, en quelle matière?
C'est des sortes de plots en béton neutre, des petits plots, hein, qui font soit 20 par 20, 40 par 40. Ils sont percés et on va installer des bambous séchés, hein, pas vivants, parce que sinon on va rajouter de la problématique. Voilà, ce sont des assemblages entre 3 et 6 blocs, de petits blocs.
Il faut combien de temps pour que le système ensuite se réinstalle à l'intérieur ?
Alors on ne sait pas vraiment, parce que c'est plutôt nouveau en eau douce. Ça se fait beaucoup plus en eau salée, où là, il y a une densité de vie qui est parfois bien plus importante et sur lesquelles, sur ces supports, ça peut aller plus vite. On ne sait pas exactement, donc du coup, ça va être vraiment un test. Et on a obtenu donc les autorisations du gestionnaire EDF pour réaliser cette phase expérimentale. Et on a également des autorisations de plongée pour que nos scientifiques puissent venir régulièrement observer l'évolution des plots immergés.
Et là, donc, la dernière opération, c'est la recherche de munitions ou même des restes de carlingues. C'est des choses que vous avez vues lors des opérations d'immersion que vous avez déjà pratiquées, de reconnaissance ?
Alors oui, je dirais que la problématique des munitions immergées est relativement inconnue, mais c'est une, hélas, bombe à retardement, sans jeu de mots. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant 30 à 40 ans, l'ensemble des belligérants se sont débarrassés de leurs munitions dans les eaux, dans les mers, les océans ou les eaux intérieures, lacs et rivières, pour ceux qui en avaient. Nous, on a déjà contribué à la découverte des munitions dans le lac Léman, à un peu plus de 50 mètres, et on est désormais en discussion avec les autorités suisses, puisqu'il va y être procédé à leur évacuation, et on sera très heureux quand ce sera fait. Donc là, c'est une autre opération, un petit peu dans le même esprit, si ce n'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sédiments dans le grand large sur cette zone-là, et que l'on s'attend à avoir une vraie exploration minutieuse.
Ok, des algues invasives aussi, parce qu'on parlait beaucoup de jussie il y a quelques années, ça existe encore ?
Alors, il y a effectivement des algues, la phocardeuse passe régulièrement. Alors, c'est plutôt des plantes que l'on trouve, plutôt que des algues. Je pourrais vous en dire un petit peu plus samedi, parce que pour l'instant, on a fait nos deux plongées de repérage et on était vraiment concentré sur les pneus.
Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, et puis on suivra tout ça bien sûr durant la journée de samedi. On reviendra vous voir pour en savoir plus sur ce que vous avez découvert au Grand Large à Mézieux, c'est à l'est de Lyon. Merci Lionel.
Merci à vous Gérald, de passer une très bonne journée.